Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Karine Ganimbaya reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson, et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir. dédicaces@radiocapi.net. Merci de rester fidèle à Okapi et nous rappelons nos moyens de contact, c'est le 081 890 63 77. Le premier sujet que nous abordons avec vous, Marc Ekila, avocat près le barreau de Makété. Vous êtes en ligne, bonjour Marc. Alors, on le sait très bien, les conflits fonciers sont très fréquents en RDC et ils sont parfois liés aux faux documents. Il arrive donc que l'une des parties en conflit exhibe des titres de propriété falsifiés ou obtenus par des voies illégales dans ces conditions que prévoit la loi congolaise. Marc, vous êtes avocat. Comment reconnaître d'abord un faux document?
Merci, bonsoir, J.A. Vous me donnez l'occasion d'abord de saluer tous les auditeurs de la radio Okapi. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, je voudrais plutôt préciser que quand vous parlez de faux documents, je pense que la notion de faux, c'est une notion qui est essentiellement de droit pénal. Alors, le faux, c'est par rapport, nous avons un faux qui peut être intellectuel et un faux qui peut être matériel. Bon, dans le cas, souvent, le faux en matière de conflit foncier ou immobilier, si vous voulez, n'est-ce pas, le faux est souvent matériel et intellectuel des fois. Alors, il faudrait maintenant voir comment l'objectif ou le but est suivi par la personne qui veut, n'est-ce pas, s'attribuer un profit illicite à lui-même ou à un tiers. Et notamment dans les cas des conflits immobiliers, il arrive des fois que nous nous trouvons en présence de deux ou plusieurs personnes qui se trouvent au même moment détenteurs des titres des propriétés, soit des contrats, des concessions liées à la parcelle. Et en ce moment-là, vous voyez d'abord la date, peut-être les écrits, les falsifications dans les documents. Et ça permet à toute personne qui est moyennement équilibrée et circonspecte de découvrir que cela est un faux. Et dans un premier temps, pour ne pas répondre dans un premier temps à votre question.
Mais il y a aussi le vrai faux documents. Mais comment reconnaître, différencier le faux du vrai?
En fait, le faux, d'abord, il faut d'abord qu'il y ait une personne, pour parler du faux ou du vrai, il faut d'abord qu'il y ait une personne victime qui s'est dit lésée par un document qui lui estime.
Tout à fait.
En ce moment-là, au niveau du contentieux, j'espère qu'il y a déjà, nous avons deux étapes. La personne a un choix, quoi, a un choix à faire, ou il peut faire les deux démarches au même moment. C'est-à-dire, s'il estime que la question peut déjà être réglée administrativement au niveau des services, il peut s'adresser à l'autorité adressée à décerner, à attribuer le certificat dans le chemin, notamment le conservateur des titres immobiliers. Parce qu'il peut arriver que par une erreur, ou peut-être volontairement, le conservateur délivre le certificat dans le chemin pour une propriété. La personne peut, dans un premier temps, commencer à s'adresser au conservateur des titres immobiliers, ce qu'on appelle en droit le recours administratif, parce que le conservateur des immobiliers est une autorité administrative, c'est un fonctionnaire. À son niveau, on peut exercer un recours administratif. Lui dire, non, voilà, il y a tel document, moi je suis en position de tel document, et vous venez de délivrer tel document pour telle autre personne. Et c'est pour ces recours administratifs-là, on fait de l'autorité. Ce n'est seulement que si après, que si l'autorité ne répond pas favorable, parce que l'autorité peut se rétracter. Mais si l'autorité ne se rétracte pas après un certain nombre de jours ou un délai, la personne est habilitée, n'est-ce pas, à saisir le cours des tribunaux pour se faire. Et dans les cas d'espèce, souvent pour le faux, usage de faux, souvent le tribunal de compétence, le tribunal de paix, du ressort compétent territorialement.
Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir celui qui détient le vrai propriété, le vrai titre de propriété, comme vous l'avez dit, peut normalement, par voie de recours administratif, s'adresser au conservateur pour se plaindre. Mais le conservateur, à ce niveau, après avoir constaté, disons, la validité ou non d'un document, il est habilité, il est permis d'annuler le faux document.
Oui, le conservateur immobilier a pleinement le pouvoir rappelle-moi le pouvoir d'annuler un document qui le signe fond délivré par ses services. Un document émanant de ses services, soit un contrat de concession d'occupation, soit carrément un certificat d'enseignement, une fois que le conservateur considère que cela est son œuvre, que cela a été fait par erreur ou d'une autre manière, le conservateur est habilité, n'est-ce pas, à retirer les documents. Et généralement, dans la pratique, si le conservateur constate qu'il y a une circulation d'un faux document, généralement, normalement, dans la pratique du droit foncier ou du droit de la conservation et des immobiliers congolais, si vous voulez, le conservateur écrit à la personne. Il s'adresse à la personne qui serait ou qui est détentrice d'un faux document pour lui demander de retourner le certificat auprès du conservateur. Mais généralement, les détenteurs de tels documents ne les retournent pas. Et dans la correspondance lui adressée par le conservateur, il dit toujours faute par vous de nous les restituer, nous serons obligés d'annuler par les duplicata. En ce moment-là, si la personne intéressée est de mauvaise foi, il s'en tient à ne pas restituer le titre constaté irrégulier par le conservateur. Le conservateur peut annuler ce contrat, le titre, à partir du dossier du duplicata. Et on va prendre le duplicata qui est classé aux archives pour marquer la mention annulée. Voilà. Ah, le conservateur peut le faire.
Oui, mais certains observateurs pensent que la valeur d'un titre de propriété tient de sa date de délivrance. Donc le moment où on a délivré ce titre de propriété, si vous vous retrouvez en face de deux titres de propriété, c'est un titre vieux, c'est ce qui est le vrai.
Bon, voilà. Vous trouvez un problème de fond qui est très important, mais ça ne veut pas de cas d'espèce. Je voudrais rester dans le principe. C'est-à-dire, là où vous posez un principe de l'entièreté des documents, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, mais généralement, il a dit qu'on peut délivrer, mais ce qui n'est pas toujours vrai, parce qu'on peut délivrer un titre antérieur à quelqu'un qui réellement n'a pas le vrai droit sur la question. C'est à ce moment-là, c'est par toutes les voies de droit, comme je disais tantôt, la personne même qui a dû se décerner le titre après, peut toujours établir le recours. Mais généralement, il est admis dans notre droit le principe de l'antériorité des actes, c'est-à-dire pour dire que l'acte qui est établi avant l'emporte la vérité. Mais cela n'arrête pas le litige n'est pas en passant à ce moment-là. La personne qui estime qu'elle est en droit de démontrer que même si elle a obtenu le titre postérieurement à son concurrent ou à son adversaire. Démontrer tout cela, il peut par exemple attaquer directement le document pour faux usage de faux, à condition par exemple qu'il soit encore dans le délai. Il faut démontrer par toutes les voies du droit, parce qu'à ce moment-là, nous sommes devant une question de droit pénal et toutes les voies, le moyen de preuve sont libres. Donc il peut démontrer devant une juridiction ou bien il peut aussi saisir un tribunal civil pour en annulation du titre, par exemple, avec tous les éléments.
Oui, Marc Ekila, en tant qu'avocat, après le barreau de Matete, si vous pouvez peut-être éclairer notre lanterne, hein, parce que là, vous venez d'évoquer quelque chose de fond. Alors, on aimerait savoir quels sont les éléments indispensables pouvant déterminer la valeur d'un titre de propriété bien contenu postérieurement.
Voilà. La valeur d'un titre de propriété, d'abord, les mentions sont prévues par la loi. Il faudrait qu'il y ait le nom de la personne, la superficie, l'identité, la nature ainsi que les constructions érigées sur le document. Mais il se fait que par malice, comme je disais tantôt, parce que l'infraction de faux, parce que nous tablons sur le faux. Le faux, essentiellement sur l'intention de nuire à quelqu'un, c'est pour s'approprier à autrui ou à une autre personne un avantage illicite. Quand on parle de l'avantage illicite, c'est-à-dire, on recourt à plusieurs manœuvres, plusieurs superficies pour y arriver. Alors, la personne qui estime qu'elle a été d'une telle pratique, c'est-à-dire, je disais tantôt, peu importe, je prends un exemple. Un monsieur venait à décéder. Alors, pendant que la succession est en train de s'organiser pour reprendre les biens, en attendant une ordonnance d'investiture au niveau du tribunal, et le présenter au conservateur des titres immobiliers pour une mutation régulière au niveau des ayants droit de la personne décédée, pendant ce temps-là, il y a X, Y personnes qui se sont organisées pour obtenir antérieurement à ces enfants-là un document et ils ont présenté au conservateur. Le conservateur de bonne foi peut voir le document, bon, il établit, mais à ce moment-là, si les vrais enfants, les enfants, les ayants droit venaient à constater cela. Donc, si nous restons essentiellement sur le plan du civil, je voudrais aller plus loin parce que là, on dit qu'il y a un certificat qui a plus de 2 ans, il devient inattaquable. Mais si 2 ans après, ces enfants-là venaient, il reste une autre possibilité, c'est que d'attaquer ce certificat-là qui a été établi antérieurement à l'heure devant le cours des tribunaux, et en démontrant qu'effectivement, c'est nous qui sommes les ayants droit, en démontrant par exemple, en présentant, en produisant la situation de composition familiale, la situation de succession, devant le cours des tribunaux, ils peuvent obtenir la description d'un tel document devant le cours des tribunaux, même si ça a été établi antérieurement.
Marc Kila, nous rappelons que vous êtes avocat près le barreau de Matete. Nous rappelons également à nos auditeurs qu'ils peuvent nous faire parvenir leurs préoccupations. Vous avez peut-être un problème, un conflit foncier ou un conflit immobilier. Vous cherchez des voies et moyens. Quelles sont les procédures à suivre, disons, administrativement ou au niveau des juridictions pour entrer dans vos droits, vous qui détenez un titre de propriété original, légal, vous plaignez parce que votre voisin en détient également, mais vous supposez qu'il s'agit là d'un titre illégal. N'hésitez pas, composez le 081 890 63 77 et faites-nous parvenir vos réactions.
Vous écoutez Radio Capi. Merci. Je suis Karine Galimbaya, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end sourire avec moi. Samedi dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Marc Kila, un certificat d'enregistrement qui a fait déjà plus de 2 ans et inattaquable, là, ça se complique. Donc c'est difficile pour quelqu'un qui est dans ce droit de faire des démarches facilement.
Oui, sur le plan de principe, comme ça je disais, donc sur le plan du droit civil, hein, un certificat qui a déjà plus de 2 ans, il devient inattaquable. Et si vous l'attaquez devant les juridictions civiles, là vous n'avez droit, même si cela est établi que le document est irrégulier, à ce moment-là vous n'avez droit qu'aux dommages et intérêts. Mais heureusement que le droit, comme un bien le dit le juriste, c'est un arbre qui casse la forêt. Si vous voulez vous être déterminé dans vos droits, vous pouvez, comme je disais tantôt, prendre vraiment cette fois-là un terrain répressif, c'est-à-dire un terrain de droit pénal, pour attaquer ce document-là pour faux usage de fonds. Voilà.
Alors, vous avez parlé de recours administratif, hein, parce que c'est parmi les procédures à suivre. Quand vous remarquez que vous êtes dans vos droits et que vous devez réellement rentrer dans vos droits, la première chose, c'est faire un recours administratif après avoir constaté qu'une autre personne comme vous détient un autre titre de propriété, mais que vous supposez être illégal de vous procéder par un recours administratif. Et il y a un délai accordé à l'autorité pour se prononcer sur votre recours. C'est quel délai exactement?
Bon, là, c'est vraiment un concours de droit administratif, un concours classique, un délai classique, c'est-à-dire un recours classique en matière de droit administratif. C'est-à-dire, vous avez d'abord ce qu'on appelle les recours graciers. C'est-à-dire, vous écrivez à l'autorité pour attendre sa réponse dans les 3 mois qui suivent. Si l'autorité ne vous répond pas, vous allez encore attendre sa réponse. Qu'on appelle 3 mois supplémentaires, c'est-à-dire vous avez 6 mois. Et si à ce moment-là la personne ne vous répond pas, vous pouvez saisir cette fois-là parce qu'il a pris, c'est un acte administratif qu'il a pris, soit un arrêté, soit une circulaire qu'il a prise, l'autorité a prise, et vous allez cette fois-là devant les juridictions administratives. À ce moment-là, nous sommes devant ce qu'on appelle le contentieux de pleine juridiction. Donc, c'est-à-dire c'est un recours ou c'est une procédure qui s'étend normalement sur 9 mois. C'est sur le plan administratif, et 9 mois après, vous pouvez continuer votre démarche au niveau des juridictions administratives. Ça, c'est une démarche. Et si vous estimez que cette démarche-là, vous ne pouvez pas l'attendre, pour les cas de certificats, par exemple, qui n'ont pas encore atteint le délai de 2 ans forclos, donc vous pouvez saisir le juge civil, notamment les juges de grande instance et les seuls compétents, pour l'annulation du dit certificat. Et comme je disais tantôt, et je me répète encore, si les 2 ans sont déjà passés, et vous estimez que vous êtes dans vos droits, vous pouvez aller devant des juridictions répressives pour attaquer le document. Voilà.
Voilà, Marc, nous sommes là en droit pénal. Quelles sont les dispositions légales ou carrément, quelles sont les sanctions qu'encourt une personne qui détient des faux documents dans les cas, par exemple, des conflits fonciers et conflits immobiliers?
Bon, avant de répondre directement en matière de droit pénal, il y a déjà le code de dit foncier, la loi de 73 qui porte un régime général de biens régime général des biens fonciers, immobiliers et sûreté, qu'on appelle le code foncier, déjà à partir des articles 204, 205, 206, 207, serait déjà la question. Par exemple, au niveau de la article 204, on dit que tout contrat pris en violation de l'article 183 est nul. Au niveau de l'article 205, on dit que toute autorité administrative ou fonctionnaire sera pris détenu, par exemple, cette fois dans ce mandat dans les mêmes conditions, est passible de peine. Allant de 6 mois à 2 ans, ainsi que de 2 ans à 5 ans et de peine, d'amende, ou d'une de ces peines seulement. Et au niveau de l'article 207 de la même loi, on réprime ce qu'on appelle l'occupation illégale, c'est-à-dire une personne qui occuperait une concession sans titre ni contrat régulier, hein, qui ne sont pas protégés par la loi. Cette personne-là, déjà au niveau de la loi dite foncière, il y a déjà ces dispositions à caractère pénal, mais dans un code à caractère civil. Et puis, lorsque nous rentrons dans le code pénal, nous avons les dispositions de l'article 124, 125 et 126, ce qui réprime les infractions de faux usage de faux, qui condamne la personne à 6 mois minimum et à 5 ans maximum, et de peine d'amende. Lorsque cela est établi, en fait, et en droit, bien entendu.
Voilà, nous allons peut-être vous poser encore une question de curiosité. Une personne qui détient le faux titre de propriété, s'il arrivait à procéder à la vente de cette parcelle ou de cette concession, qu'est-ce qu'il y a encore comme sanction? Mais nous prenons d'abord la réaction de Christophe Nissini de Goma. Bonjour Christophe.
Bonjour Gilles.
Votre question?
En fait, je voulais poser la question à l'avocat. La question consiste à savoir comment nos juridictions peuvent arriver à régler un problème devant un testament qui se montre conflictuel. Bon, en fait, pendant le décours, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juriste, mais je sais que le décours peut y avoir laissé un testament, mais que le testament se montre un peu conflictuel par rapport aux héritiers. Et parmi les héritiers, peut-être qu'on peut avoir celui qui est en position des vrais ou des faux documents. Comment est-ce que nos juridictions peuvent arriver à régler un tel problème si c'est moins compliqué qu'on se fait par rapport au testament?
Alors, Marc?
Non, j'ai suivi la question de notre. Je voulais dire merci à l'ami. C'est-à-dire, j'ai évoqué, j'ai éclairé la question tout à l'heure en disant que, en matière, parce que parmi les formes de mutation, il y a la mutation, vous pouvez monter la mutation entre vifs, c'est-à-dire une personne qui va à une autre. Pour le code de décès, il y a toute une procédure qui est organisée, ne soit pas la loi. Et dans le cas d'espèce, lorsque le propriétaire, comme il a dit, le décus venait à mourir, il y a la succession doit s'ouvrir. Et pour que le patrimoine, la propriété de la personne décédée passe à sa succession, il faudrait qu'on obtienne devant le tribunal, devant les instances compétentes, ce qu'on appelle une ordonnance d'investiture. Et lorsque vous allez présenter cette ordonnance d'investiture-là au conservateur des immobiliers, il va établir les certificats d'enseignement aux bénéficiaires. Ça, c'est en matière mais générale. Mais si c'est en cas de testament, maintenant, à ce moment, il faudrait voir est-ce que le testament a été établi au nom de tous les ayants droit ou au nom d'un seul. C'est ça les éléments qu'il devra préciser. Mais j'estime pour ma part, mais je pense que dans le cas d'espèce, dans l'esprit de notre intervenant, il voudrait dire que quelqu'un est bénéficiaire d'un testament en bonne et due forme. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui se précipite devant les autorités compétentes pour se faire délivrer un certificat d'enseignement. Si nous parlons essentiellement sur les certificats d'enseignement, avec tout ce soir d'enseignement, je crois avoir invoqué la question en disant que, avec tous les éléments que je viens d'évoquer, il faut aller devant les cours des tribunaux, selon que nous sommes dans les 2 ans ou au-delà de 2 ans, aller par un recours administratif et présenter tous ces éléments-là de preuve, dire que voilà, c'est moi l'enfant, voilà mon testament, et là, le cours des tribunaux va dire le droit en sa faveur. Et si on est au-delà de 2 ans, comme je disais tantôt, il va présenter son testament devant la juridiction compétente pour que cela soit établi, parce que en matière de faute, la sanction, c'est la destruction. Ça, j'insiste sur la sanction, c'est vraiment la destruction. Donc, le juge ordonne la confiscation et la destruction du titre faux. À ce moment-là, le vrai bénéficiaire le bénéficiaire, je dirais, légal du testament, entre dans ce droit, par voie du jugement, et le conservateur sera exécuté, si seulement cette fois-là aussi, le jugement devait acquérir l'autorité de la chose jugée. Parce que par voie du jugement, vous ne devenez propriétaire que lorsque le jugement acquiert l'autorité de la chose jugée.
Oui, mais Marc Kila, d'aucuns se posent la question, une question de curiosité, parce que ça paraît un peu bête. Hein. Quels sont les garde-fous placés par l'autorité légale afin qu'il n'y ait pas d'erreur par rapport à ce traitement, au traitement de ces conflits fonciers prier pour que celui qui est dans les faux ne puisse pas jouir des droits qui ne lui appartiennent pas.
Au niveau du conservateur immobilier, il existe toute une série de livres. Il y a des livres de registre où on enregistre tous les requérants des titres immobiliers. Il y a aussi un autre livre où sont renseignés tous les titres délivrés. Et j'ai dit tout à l'heure que quand on délivre les titres, il y a l'original et l'édificateur. L'original, on remet à la
personne.
Et quand tu décides de l'édificateur, reste au niveau du conservateur. Et c'est ce qui permet d'ailleurs au conservateur, en cas d'exécution d'une décision, soit de sa propre décision administrative ou des juges judiciaires, d'annuler le titre. Mais pour dire que, il y a toujours des enquêtes aussi qui sont menées quand vous faites une demande normalement, les services de cadastre doivent mener aussi les enquêtes. Il y a tout un service habilité pour cela. On doit vérifier votre identité, on doit vérifier la parcelle, on doit jouer aussi les critiquer les documents que vous présentez. Il y a tout un service. Mais malheureusement, comme je dis, l'administration peut être toujours induite en erreur parce que quand quelqu'un veut commettre, par exemple, veut utiliser des manœuvres frauduleuses, et il met vraiment son intelligence en marche, toutes les manœuvres pour induire le service en erreur. Et la plupart des cas, les faux documents ne sont pas seulement. Il ne vraiment pas de bonne foi que l'administration le fait. Souvent, l'administration est induite en erreur, même s'il veut prendre des précautions, mais il y a des gens qui sont tellement organisés, tellement malicieux dans le mal qu'ils arrivent à induire tout un service en erreur. Et c'est comme ça que j'ai dit que quand cette vérité la preuve est rétablie, soit administrativement, soit par voie juridictionnelle, l'autorité ne trouve aucun inconvénient à annuler.
Alors, bon, ça,
c'est-à-dire les recours, tous les recours dont nous parlons, les recours administratifs et judiciaires sont vraiment les garde-fous pour réduire la marge de. C'est la même la raison d'être des recours des tribunaux. C'est leur travail.
Nous avons Blanchard Luana de Mbandaka qui vient intervenir. Bonjour Blanchard.
Oui, bonjour JF.
Votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est de savoir. Quel type de sanctions que prévoit les droits fonciers contre un agent qui délivre un titre de propriété à plusieurs personnes pour une même parcelle? Parce qu'on a l'impression que ce sont eux qui sont à la base de tous ces conflits fonciers-là.
Merci Blanchard. Marc est qui là? Il y a quand même une certaine complaisance, disons maladresse aussi du côté des agents commis au service de immobilier. Des fois, ils commettent ce genre de dévues en délivrant des titres de propriété à plusieurs personnes pour une même parcelle.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je disais tout à l'heure que le code du foncier contient des dispositions répressives pour sanctionner de tels agents. J'ai parlé par exemple de l'article 204, hein, article 204 qui dit, ça je dis d'esprit, hein, je dis ça de mémoire, qui dit que tout contrat pris en violation de la loi, notamment l'article 183, est nul. Il y a l'article 205, là vraiment c'est une disposition d'ordre répressive, mais dans le code du foncier, qui dit sera passible d'une peine de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 300 euros ou d'une de certains seulement, l'autorité qui aura conclu au nom de la République propriétaire un contrat visé par l'article 204. 2. Le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d'enseignement en vertu d'un tel contrat. On parle aussi de sera passible d'une peine de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 300 euros ou d'une de certains seulement, toute personne qui, par contrainte, menace ou cette pression, aura obligé un fonctionnaire de la direction du domaine ou des titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la loi. Et puis, ça sont des dispositions répressives qui sont contenues, n'est-ce pas, dans le code du foncier, mais il y a aussi une disposition d'ordre général dans le code pénal, livre 2e, en son article 180, qui réprime l'atteinte des droits garantis aux particuliers. Et dans le cas d'espèce, si vraiment, de manière délibérée, un fonctionnaire, après avoir vérifié la régularité de la demande, il constate que cette concession-là ou cette propriété-là ne peut pas faire l'objet d'un titre pour raison déjà établie, pour des raisons de légalité, mais qui venait quand même à le faire. Ou un conservateur de titres immobiliers notifié d'une décision judiciaire qui n'ayant pas, a-t-il observé la chose jugée, mais qui vient quand même, qui arrive quand même à délivrer un certificat de sémence, l'article 180 est là pour le réprimer. Est là pour le réprimer de 2 à 5 ans, je crois, de prison devant le tribunal de paix. Voilà les dispositions les gardes fous qui sont prises par les législateurs pour protéger la propriété.
Et que prévoit les dispositions pour une personne détenant des faux documents, des faux titres de propriété qui arrive à vendre la parcelle qui ne lui appartient pas?
À ce moment-là, nous tombons dans un cas un peu plus complexe. Pourquoi je dis plus complexe? C'est-à-dire qu'il faudrait déjà, parce que la personne qui détient les documents, aussi longtemps qu'il n'y a pas une décision contraire qui viendrait à établir que ces documents-là sont faux, et cette personne-là est censée encore être propriétaire. Mmh. Votre question ne trouve des réponses, ne trouverait bien à trouver une réponse que dans l'hypothèse où il y a déjà une décision administrative lui indiquant de restituer le titre qui détient par devait lui, ou bien une décision judiciaire coulée en fort de ce jugé, décrétant, disant que c'est le document qui détient est faux, et cette personne-là venait, n'est-ce pas, avant de la concession, donc il détient le titre dans ces conditions-là, je crois que cette personne-là peut être poursuivie d'abord sur le plan civil et pénal. Hein, sur le plan civil, bon, on peut poursuivre pour annulation des ventes, et sur le plan pénal, là, la personne peut être poursuivie pour ce qu'il y en a. C'est-à-dire
avant de dire que ne pas. Merci Marc Ekila. Nous rappelons que vous êtes avocat après le barreau de Matete, d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir apporté tout cet éclairage autour de ce problème, le conflit foncier ou le conflit immobilier lié aux faux documents. Nous allons revenir avec vous peut-être très prochainement pour rentrer encore en profondeur dans les détails sur cette question. Une fois encore, merci et à très bientôt.
Merci.